conférences et débats.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue en ce samedi matin. Ravie de vous retrouver au Lausanne Palace. Et ben, bienvenue à la dernière des six rencontres avec les auteurs des romans sélectionnés pour le prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2018. Alors, je suis absolument ravie de clore ce cycle de rencontres avec Damien Murith, donc, qui est en lice pour le prix des lecteurs avec son roman Le Cri du Diable, qui est paru en septembre dernier aux éditions de l'Âge d'Homme. Je suis ravie parce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de miracle Damien Murith. Alors jusqu'à l'année 2013, l'année de ses 43 ans, cet enseignant fribourgeois n'avait rien publié. Puis en 2013, il publie « La lune assassinée ». 112 pages qui décrivent un village, je cite, « morne et noir comme un insecte recroquevillé, avec l'odeur du moisi qui rampe le long des ruelles, les granges vides où l'on se pend, l'auberge où l'on boit sa rage, sa haine, l'usine de briques, de fer, de sueur. » Oh, évidemment, hein, y a... voilà. Donc 112 pages d'une noirceur absolue qui raconte l'histoire d'un adultère qui finit évidemment très mal, et le tout dans un style plus proche de la poésie, ou disons de la prose poétique, que du roman. Donc a priori absolument invendable et complètement repoussoir pour les lecteurs. Et pourtant, bingo, La lune assassinée remporte 4 prix littéraires, dont le prescripteur prix Bibliomédia, et puis le prix SPG du premier roman, et puis se retrouve noyé sous un cortège de louanges, de critiques absolument admiratifs, et puis de blogs littéraires, de lecteurs absolument enthousiastes dans toute la francophonie. Damien Murith enchaîne avec les 1000 veuves en 2015, et puis ce nouveau Le Cri du Diable l'an dernier. Alors, tout aussi noir, aussi désespéré, aussi poétique, aussi dramatique, mais heureusement, tout ne lasse, tout ne passe pas, et la réception de ces deux livres suivants est tout aussi enthousiaste. Alors moi, je suis ravie que nous puissions ce matin, en sa compagnie, tenter de comprendre ce paradoxe absolu du masochisme apparent des lecteurs, comment on arrive à plaire à ce qui ne devrait pas plaire, mais aussi constater que l'on peut écrire des textes d'une noirceur absolue et pourtant être l'homme le plus chaleureux et sympathique et, paraît-il, facétieux du monde. Merci d'accueillir Damien Murith. Damien Murith, bonjour.
Bonjour.
Bon, alors, il est habillé en noir, hein, quand même, donc...
J'ai un t-shirt gris, quand même.
Ah, quand même. Donc, oui, non, tout noir, mais pas tout, quand même. Alors, bon, comment allez-vous ?
Très bien, merci, voilà. Vous-même.
Mais... Très bien, mais alors, je rappelle les règles du jeu, hein, c'est moi qui pose les questions.
Hein. D'accord.
C'est beaucoup plus reposant et beaucoup plus fatigant d'y répondre, donc ce matin, c'est vous qui travaillez. Le samedi matin, nous, vous voyez ce qu'on fait, hein, une fois par mois, et vous, que faites-vous habituellement le samedi matin ? Vous habitez près de Payerne, hein ?
J'habite près de Payerne, un petit village qui s'appelle Montagny-les-Monts, et le samedi matin, en principe, je dors un peu quand même, hein, et ensuite, je fais le déjeuner pour mes filles. Voilà, ça s'arrête à peu près là.
Ah, c'est bien, la vie d'écrivain.
Oui, complètement. Complètement.
Non, c'est vrai qu'on en parle souvent, les écrivains ont une vie à côté, un travail, des filles, une maison, des petits déjeuners à faire. Alors, ce livre, Le Cri du Diable, je le montre pour ceux qui ne l'auraient pas vu un peu en arrivant sur la table à librairie. On en parlera parce que la couverture est fantastique. Très beau portrait de profil d'une femme de la collection du Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Donc, Le Cri du Diable suit la figure féminine de Camille. Camille voit son mari qui meurt dans ses bras tout au début du livre, et puis quelques pages après, elle tue accidentellement un paysan qui abuse d'elle, et elle fuit parce qu'évidemment les villageois veulent se venger de la mort de leur concitoyen, et elle fuit en ville. Elle se met à travailler dans un café. Elle rencontre un peintre avec lequel elle a une aventure, mais mais les frères de la victime sont à ses trousses et Camille redevient une proie. Alors Camille est la troisième des figures féminines qui apparaît dans ces trois livres qui ne sont pas une trilogie, on dit triptyque, on en parlera. Mais d'où vient Camille ? Qui est Camille ? Comment est née la figure qui est au centre de ce nouveau roman, Le Cri du Diable ?
Alors très exactement, je ne sais pas comment elle est arrivée. Il y avait plusieurs personnages comme ça qui me trottaient dans la tête et il y a un film qui m'a assez bouleversé, qui était le film qui retraçait la vie de Camille Claudel. Et j'aimais bien ce personnage d'Adjani, ce personnage un peu, même complètement, on va dire, torturé. Et je me disais, voilà, j'aimerais un personnage qui vit un petit peu dans ce monde, alors plus tard dans le livre, dans ce monde artistique, mais ce personnage qui va vraiment jusqu'au bout de ce qu'elle a envie, même dans le plus tragique. Et je crois que ce personnage, en fait, c'est le Camille Claudel joué par Adjani, et puis il y a un autre personnage, mais je ne me rappelle plus du tout quelle actrice jouait dans ce film qui s'appelait Passion d'amour, qui est un film assez ancien, où c'était l'histoire d'un soldat qui tombait amoureux d'une femme extrêmement laide, mais qui elle aussi justement avait ce côté jusqu'au boutiste dans sa relation amoureuse. Je pense que c'est venu de plusieurs personnages qui m'ont inspiré et puis qui ont donné ce personnage de Camille.
Ouais. C'est une femme absolument passionnée, enfin... à la fois passionnée amoureuse, passionnée, ben on le voit que capable de tuer une fois et même davantage. Et puis c'est la troisième des héroïnes dans le fond qui apparaît dans vos livres, puisque l'Émile Veuve, effectivement un personnage de femme au centre, la Lune assassinée déjà. Comment vous expliquez que finalement ce soit avec ça que vous ayez eu envie de commencer à écrire? Que ce soit le fil conducteur de ces trois livres qui se sont enchaînés tous les deux ans.
C'était une évidence, je crois. Je me sens beaucoup plus proche finalement des personnages féminins, que ce soit en littérature ou en peinture ou au cinéma. Et le tout premier, La Lune assassinée, en fait, c'était une dame qui habitait, je ne vais pas dire dans mon village, parce que sinon ça va être... mal pris, mais c'est des souvenirs aussi de ce que j'ai vécu, de mon enfance, de personnages comme ça. J'ai beaucoup vécu aussi à la campagne quand j'étais petit. Et en fait, c'est des souvenirs d'enfance qui arrivent petit à petit. Et il me fallait un personnage un peu plus sain, entre guillemets, on va dire. Et Césarine, eh ben, c'était ce personnage-là. Maintenant, pourquoi est-ce que je préfère parler de personnages féminins? Ça, c'est une grande question.
Est-ce que c'est lié au registre des livres qui sont à la fois effectivement des tragédies, qui mettent en scène des passions, hein, vraiment des passions humaines, même vraiment extrêmement exacerbées, même si ensuite le style est lui très très ramassé, on en parlera. Est-ce qu'à votre avis, les femmes sont davantage des héroïnes de tragédies, de drames passionnels? On pense à l'opéra, hein, il y a beaucoup de grandes héroïnes féminines. Typiquement, ben, Camille Claudel, c'est une tragédie, c'est une femme.
Oui, c'est possible. C'est possible. Maintenant, j'essaie toujours de me mettre dans la peau du personnage. Et j'ai beaucoup plus de facilité à me mettre dans la peau d'un personnage féminin, surtout dans un drame passionnel, que dans la peau d'un personnage masculin. Par exemple, dans La Lune assassinée, Pierre, j'avais beaucoup, beaucoup de peine à me dire qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va ressentir, qu'est-ce qu'il va vivre, alors que pour Césarine, ça me semblait presque une évidence. Et du coup, ça m'intéresse davantage. Et alors là, je vais plus loin dans le personnage, et la même chose pour les mille veuves. À partir du moment où il y a un personnage masculin, très souvent, j'ai envie de l'éliminer, donc en principe, je le tue assez rapidement.
Genre pas de concurrence, comme ça vous vous retrouvez tout seul avec votre héroïne,
oui,
c'est un peu pour ça.
Il faudrait que je fasse un roman, c'est marrant, je suis en train d'écrire maintenant un nouveau texte où c'est deux femmes. J'ai éliminé l'homme là, et comme ça j'ai plus de soucis. Ou s'il vient, il fait un tout petit aller-retour, c'est tout.
Ouais, et donc, vous n'avez aucune difficulté à vous mettre dans la peau d'un personnage féminin en disant ben, qu'est-ce qu'elle ferait là, dans quoi elle se jetterait à nouveau?
Non, après, à savoir est-ce que c'est juste, est-ce que je dis, est-ce que je ressens les bonnes choses, ça c'est une autre question. Mais je pense qu'en commençant un texte, j'aurai automatiquement un personnage féminin qui va arriver. Peut-être que ce ne sera pas le personnage principal, mais il aura une place importante. Je ne m'imagine pas faire une histoire d'un club de foot, quoi.
Ouais, pourtant, à Fribourg, il y en a. Hein.
Oui, pas beaucoup, mais ah ouais. Bon.
Est-ce qu'il y avait aussi l'envie, cette fois dans Le Cri du Diable, de décrire la ville ? Parce que, effectivement, les mille veuves étaient plutôt tournées vers la mer. Et puis, avec la lune assassinée, on était dans l'ambiance village, campagne. Et là, très vite, Camille se retrouve en ville, hein, où elle, donc elle fuit ceux qui veulent la retrouver suite au meurtre qu'elle. Voilà, au meurtre même accidentel, suite à son agression, et elle plonge dans la ville. Et vous faites des descriptions de la ville absolument dantesques. C'est d'ailleurs fantastique la manière dont vous en parlez. Peut-être qu'on pourra en lire un extrait. L'envie de se plonger dans la ville, du coup, avec ce roman ?
Ah, complètement, oui. La lune assassinée, c'était la campagne. Je connais bien la campagne, puisque c'est là que j'ai le plus vécu. Les mille veuves, la mer, parce que j'adore la mer et que je me suis dit, ben, je vais essayer de me plonger dans cet univers-là, c'est le cas de dire. Et il me restait la ville et il me reste encore le désert. Je me disais, j'ai pas fait le désert. Et j'ai commencé un texte sur le désert en me disant, peut-être qu'on va pas faire un triptyque, mais on va en rajouter encore un petit quatrième. Mais en fait, je connais pas assez bien le désert, donc j'ai fait une vingtaine de pages et je me suis dit, il faut que tu t'arrêtes parce que t'as pas les parfums, t'as pas... Je connais pas.
Ouais. Et puis bon, pour qu'il y ait des passions humaines et des interactions, on fout un peu du monde, quoi.
Ah, pas ouais. Forcément, non. Dans mon histoire du désert, ils étaient deux. Ça fonctionnait bien au début, puis tout d'un coup plus. Donc je me suis arrêté là, quoi. Mais ce qui me manquait, c'était pas véritablement la relation de l'homme et de la femme. C'était l'environnement. C'était. Il aurait fallu que je fasse un voyage dans le désert pendant 6 mois et que je me dise, ah, c'est ça. Et j'aime pas. Et quand je décris la ville, quand j'étais étudiant, je vivais à Fribourg dans la ville. Je connais la ville. Je sais ce que c'est une ville à 2h du matin quand tout le monde sort des bars et que ça sent. Voilà. Je connais ces ambiances. Et c'était très important pour moi de pouvoir les décrire juste.
Ouais. Mais alors, c'est une ville quasi apocalyptique. Enfin, je veux dire, c'est une ville très dense. Oui. Ville monstre, gueule hurlante, ville vampire qui saigne et suce, ville démente, ville sénile. Dans ses artères malades s'écoule la mort. Ville noire de guerre, d'incendie, d'épidémie. Ville jaune du crachat des usines. Ville rouge, le crime et le vice s'y accouplent. Et ville haute, on s'y goinfre la bouche en cul de poule. Et ville basse, sur les têtes, le vent y peigne les poux. Et à chaque étage... Hommes désœuvrés, familles grelottantes, immigrés des terres asphyxiées, tous rassemblés dans des mouroirs de briques et de pierres, ils se retrouvent au couchant, alors ils chantent le pays, libèrent les hymnes, les refrains qui font pleurer les vieillards, danser les femmes et rire les enfants. Vous avez une vision assez sombre de la ville.
Oui, c'est pas Fribourg. Hein.
Non, je sais. Oui, c'est vrai que quand on pense ville haute, ville basse, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, mais...
Non, en fait, c'est un peu inspiré du Whitechapel de Jack l'Éventreur. Et après, on exagère toujours, on exagère pour donner cette impression justement de ville monstre, mais d'une ville vraiment vivante, dangereuse, ou presque c'est la ville qui décide pour les humains et pas l'inverse.
Et ça, c'est fascinant pour un écrivain.
Oui, ah oui. Sinon c'est vrai que c'est ennuyeux de dire il y a 4 rues, 3 carrefours, après le kiosque et puis après il y a la cantine, machin. Non, moi il me faut un univers particulier, un univers sombre. Alors je suis pas sombre. Hein. Souvent on me dit vous n'êtes pas un petit peu dépressif vous ?
C'est clair qu'il ne faut pas confondre les livres.
Oui, mais souvent là, je me rappelle d'une petite anecdote là dans quand La Lune Assassinée est sortie. Et il y a un journaliste qui était venu faire une photo chez moi, et j'étais chez moi, décontracté, souriant. Et 2-3 jours après, je vais dans la librairie, et puis la libraire, tout étonnée, me dit « Mais vous souriez ?» Je dis, c'est entre ce que j'écris. Et même quand j'écris, des fois, je me dis « Non, là, quand même, tu vas trop loin, stop. Ouais. » Et c'est pas la même chose. J'ai 3 filles, la plus petite me dit que j'aurais dû être clown... Ouais, j'aime bien cette idée de me dire je ne suis pas ce que j'écris, ouais. Ou pas complètement.
Mais avez-vous du coup été surpris quand parfois quand vous avez vu ce que vous écriviez, parce que dans le fond on ne maîtrise pas toujours. Hein. Il y a une part évidemment inconsciente dans l'écriture, la création littéraire. Vous avez dit mais c'est moi ça.
J'étais étonné, alors pas pour les 2 premiers, mais j'étais très étonné pour Le Cri du Diable parce qu'il y avait une lecture à la radio. Et chapitre après chapitre, je me disais, oula, oula. Et à la fin, heureusement, mon père m'a téléphoné en me disant non, mais c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien.
Et... Mais genre, mais ça va à part ça.
Mais ça va, toi. Mais oui, c'est sur le moment quand on écrit. Alors, je relis énormément. J'écris sur papier. J'ai beaucoup de peine avec l'ordinateur. Je mets vraiment, c'est la dernière étape, l'ordinateur. Mais quand j'écris sur le papier, on est dans une espèce de bulle comme ça. Et les mots viennent les uns après les autres. On se relit. Et il y a cette espèce de d'auto-persuasion, on va dire, de se dire non, c'est bien, on continue, c'est comme ça, c'est ça que je veux. Et deux, trois jours plus tard, on reprend le même texte et on se dit non, là j'ai été trop loin, il faut que j'enlève ça. J'ai beaucoup enlevé dans les Mille Veuves, par exemple, de passages où c'est cette deuxième voix qui parle qui était encore beaucoup plus dure que ce qu'elle est là.
Mais alors, comment vous expliquez qu'effectivement vous nous donniez à lire une littérature extrêmement sombre, quelle part de vous-même se retrouve dans ces livres que vous-même ignoriez ?
Aucune idée, alors. Aucune idée. C'est... Peut-être qu'un jour je ferai un livre rigolo, mais pour le moment c'est ce qui m'inspire, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça durera peut-être pas tout le temps. Hein.
Ce qui frappe, c'est que donc, ce sont des récits effectivement brefs qui sont situés ni géographiquement, ni dans le temps. Dans le fond, on ne sait pas ni quand on est, ni où on est. Pourquoi nous laisser volontairement dans ce flou ?
Parce que je crois que les passions humaines n'ont pas de date ou de lieu. Je crois que ces passions amoureuses qui sont là, ça peut être il y a 100 ans, dans 200 ans. Et si je mets un lieu, je me fixe sur quelque chose et ensuite il y a une recherche, il faut aller regarder, est-ce que cette rue existe vraiment, et ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de passer des heures à faire des recherches, de me dire je vais faire mon roman qui va se dérouler à Londres ou à Paris. Londres aurait été très bien pour Le Cri du Diable, mais ça ne m'intéresse pas d'aller fouiller, d'aller sur place, de regarder est-ce que c'est bien juste. Non, j'invente un monde. J'invente un monde, mais qui peut être ici, qui peut être un peu partout, quoi.
Pour qu'on se concentre mieux sur ce côté, cette intemporalité totale des passions humaines.
Oui, exactement. Ouais, ouais. Ce qui est écrit dans Le Cri du Diable peut se passer n'importe où, n'importe quand. Mmh. Et c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est que je n'ai pas, pour le moment, envie de faire un roman où il faut faire des recherches, justement, en se disant... Je me concentre sur l'écriture. J'ai presque envie de dire que l'histoire est presque secondaire. L'histoire, elle est assez vite bouclée. Après, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le travail de l'écriture. C'est vraiment ce travail intellectuel de se dire, je vais essayer de l'écrire le mieux possible en ayant les mots les plus justes.
Mais vous imaginez quoi, vous, quand vous écrivez ? Est-ce que vous avez des paysages en écrivant, des lieux, des époques, et qu'ensuite vous ne nous livrez pas pour que nous-mêmes puissions imaginer ce que nous voulons ? Ou est-ce que vous-même n'avez pas d'époque, pas de lieu ?
Non, j'ai parfois une photo. J'ai parfois quelques photos comme ça. Pour La Lune assassinée, je me suis inspiré de l'environnement de la campagne. Hein. Quand on parle de faire les foins, quand on parle de tuer un cochon, je veux dire, c'est du vécu. Les Mille Veuves, c'est mes souvenirs d'enfance. Dans le nord de l'Allemagne, de la Suède, Danemark. C'est cette mer-là que je voulais décrire. C'est pas la mer des Caraïbes, celle-là, elle m'intéresse pas. Et puis Le Cri du Diable, par contre, c'est totalement inventé. C'est une ville que j'arrive même pas à m'imaginer. Si je ferme les yeux, je vois pas vraiment cette ville.
Et ce titre, Le Cri du Diable, ça fait quel bruit, Le Cri du Diable? Non, moi je l'ai trouvé excellent et ça m'a vraiment inspiré cette question. J'ai dit, mais tiens, mais j'essayais d'entendre quelque chose.
Le Cri du Diable, c'est le cri de la rage et de la haine. C'est le cri de... d'une passion amoureuse qui tout d'un coup tourne au vinaigre. Et c'est ce cri parfois qu'on a envie de pousser, qu'on part de chez soi et on a cette rage en nous et on se dit, il faut que ça sorte. Et moi je le voyais comme ça, ce cri du diable.
Alors effectivement, c'est pas une trilogie, on dit c'est un triptyque. C'est quoi la différence entre une trilogie et un triptyque ? Quel lien ? On sait trois livres, alors, qu'on rattache souvent mais en même temps qu'on peut lire totalement séparément.
Pour moi, une trilogie, c'est une suite. C'est la trilogie, j'aurais dû prendre La Lune assassinée et puis faire la suite, les aventures de...
Ouais, les mêmes personnages.
Des survivants, puisqu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui survivent. Hein. Et puis, pour moi, un triptyque, c'est vraiment un tableau. C'est trois images qui se ressemblent, qui sont liées les unes aux autres, mais qu'on peut regarder séparément. Dans une trilogie, c'est difficile de commencer par le deuxième ou par le troisième, il faut quand même commencer par le premier. Alors qu'ici, on peut commencer par le cri du diable, on peut commencer par n'importe lequel, mais on retrouvera quand même des éléments qui se ressemblent. Et même dans l'écriture, il y a des chapitres qui se répondent d'un livre à l'autre.
De manière volontaire.
De manière volontaire, dans la manière d'écrire, oui.
C'est quoi le fil rouge, à part effectivement le fait qu'on ait à chaque fois une héroïne forte au cœur d'une tragédie, quoi?
C'est l'amour. Juste l'amour.
L'amour.
L'amour, oui.
Ouais. Mais alors sous histoires. Un côté un
oui,
peu...
Oui, alors c'est pas la part la plus calme et sereine de l'amour, non. Ça, c'est un peu ennuyeux parfois. Moi, ce que j'aime dans la passion amoureuse, c'est justement ce combat, vivre une vie entière ou une demi-vie ou un quart de vie avec une personne, c'est quand même un défi. C'est quand même. Moi, je suis maintenant marié depuis bientôt 20 ans. Je peux pas dire que c'est 20 ans de bonheur absolu. C'est 20 ans d'aventure, oui, de combat, de moments de grâce, de moments de remise en question, de moments où on se dit on arrête tout. Non, ça vaut pas. C'est ça qui m'intéresse.
En même temps, ça parle de tout, sauf du quotidien. Vos livres, justement, parlent de moments exacerbés, passionnels, très brefs, qui font que jamais aucune de ces histoires d'amour ne va pouvoir s'installer dans le temps, vivre sur une décennie, deux décennies. C'est presque l'inverse. Je ne sais pas, est-ce que vous aviez envie d'introduire un peu de passion dans votre vie en vous mettant à écrire sur des histoires d'amour absolument passionnelles mais dramatiques?
Dans ma vie,
que j'espère que vous ne vivez pas avec au quotidien.
Non, c'était... J'ai pas très bien compris votre question. En fait.
Oui. Non, parce que vous dites ça parle d'amour. Oui. Voilà. Or, ça parle effectivement d'amour d'une manière très sombre, très passionnelle, très dramatique. Oui. Enfin, tout se passe mal, là. La pauvre Camille, à peine elle est amoureuse que son mari meurt. Ensuite, elle tombe amoureuse du peintre, mais assez vite, le peintre la délaisse pour une autre modèle. Et là, elle devient...
Non, il la délaisse pas pour un autre modèle.
Ouais, enfin, ouais, c'est enfin, plus compliqué, ouais, mais voilà, ouais. Ouais. Mais ensuite elle devient elle-même littéralement folle d'être ainsi abandonnée. Enfin, ça n'a rien à voir avec une vie de couple qui s'installe dans le temps. Donc, est-ce que c'est justement pour pouvoir faire le grand écart entre la vie littéraire et la vie quotidienne que vous êtes mis à écrire sur l'amour, mais avec effectivement une vision très exacerbée et passionnelle et dramatique?
Je déteste la routine. La routine aussi dans le couple. Et là, c'était aussi une façon, finalement, de briser et d'inventer des histoires qui vont tellement vite que le couple n'a pas le temps de s'installer, effectivement. Alors, c'est vrai que dans La Lune assassinée, on imagine qu'il y a eu une vie de couple... sereine, et puis il y a eu un drame qui a fait que ce couple s'est un peu déchiré, mais je laisse pas le temps au couple, non, de s'installer, sinon je trouve qu'on tombe dans la routine et puis on va commencer à faire des scènes ils ont fait à manger, ils ont mangé, ils ont été se coucher, que t'as bien dormi, puis toi il fera beau demain, je sais pas. Non, ça ne m'intéresse pas, il faut que ça claque. Quoi.
Ouais. Mais bon, rassurez-moi, en tant que Damien Murit, homme marié et père de famille, ça vous plaît, la vie de couple?
Ah oui, beaucoup, oui.
Non, parce qu'en tant qu'auteur, ça a l'air très ennuyeux.
Ah non, moi j'adore ma femme, j'adore ma vie de famille. Non, justement, c'est totalement différent. C'est filmé, j'espère pas que ma femme va regarder, mais... j'adore ma femme.
Allez, donc il y a la vraie vie dans laquelle la routine peut être bienvenue et la vie littéraire dans laquelle il ne faut surtout pas...
Non, dans le couple, dans la vie réelle, la routine, elle est très saine. Si on devait vivre à cette vitesse-là, on serait tous morts d'un infarctus à 40 ans, je pense.
Ouais.
Mais dans la vie de couple, je crois que la routine, c'est le ciment. Oui, c'est le ciment. C'est vrai qu'on a souvent critiqué, je tombe dans la routine, ça fait 10 ans que je suis avec ma femme, on fait toujours la même chose. Mais c'est sain, à mon avis. Hein. Je ne suis pas psychologue non plus. Hein. Un psychologue vous dira, il faut du piquant, il faut du truc, il faut du machin. Oui, bien sûr. Mais la routine fait que le lendemain, on est toujours ensemble, et le surlendemain aussi.
Ouais. Et d'ailleurs, votre femme, que pense-t-elle de ces héroïnes passionnées, passionnément amoureuses, mais qui parfois en meurent dans vos livres?
Mais par rapport à ça, on a un petit peu chacun notre vie, mais elle est plus du côté de la musique. Quand j'avais donné à lire le manuscrit de La Lune Assassinée, le tout premier, moi j'étais assez fier de moi, je me suis dit, ouais, j'ai écrit un truc qui est pas mal, quoi, je crois. Alors c'est sombre, je me suis
on
dit.
On est beaucoup à le penser, bien
on
sûr.
Va pas, on va pas certainement me l'éditer, mais je me suis dit, pour une fois, je crois que j'ai été au bout d'un truc. Puis je lui avais mis discrètement le manuscrit comme ça sur sa table de nuit, en me disant, tu pourrais peut-être le lire, quoi. Puis elle l'avait lu, puis le lendemain matin, elle était venue, puis elle m'avait dit, enfin, je lui avais dit, alors t'en as pensé quoi? Puis elle m'a dit, je sais pas. Je sais pas si c'est bien ou si c'est nul.
Eh ben, on n'est pas aidé à la maison,
Mais après, c'est vrai que. Non, non, si, je suis très, très aidé. Et elle va pas me lire des bouts en me disant, là, tu devrais faire comme ça ou tu devrais faire comme ça. Elle veut le livre. Elle n'aime pas lire sur manuscrit. Mais une fois que le livre est sorti, c'est vrai que là, elle m'est d'une très grande aide pour le suivant. Où elle me fait une critique qui est absolument géniale en me disant, ben, ça, c'est dommage, ou ça, ah, ça, c'est génial, ou ça. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'elle m'aide énormément. Ouais.
D'ailleurs, ben, le Cri du diable est dédicacé à Geneviève. C'est elle?
C'est mon épouse, ouais.
C'est votre...
Tant tous dédicacés à Geneviève.
D'accord. Oui. D'ailleurs, ce livre a eu du succès. Le premier livre, La Lune assassinée, a eu une belle reconnaissance des prix littéraires et des belles critiques, mais à la fois chez les critiques littéraires et dans les blogs. Je signale parce que les blogs sont tenus par des lecteurs passionnés qui sont, voilà, qui ont beaucoup d'influence auprès des autres lecteurs. Est-ce que vous avez été heureusement surpris? Qu'est-ce que ça vous a finalement fait ressentir ce bon accueil, heureux.
Alors j'ai déjà été très étonné de l'accueil de mon éditrice Andonia qui est là, de cet enthousiasme du texte où j'avais l'impression que vraiment ils ont beaucoup aimé ce texte. Puis après c'est vrai, bah, comme tout premier livre, je pense qu'on est très étonné du succès que peut avoir un texte qu'on a écrit soi-même. Moi, je suis toujours dans le doute. Donc, quand j'écris, je me pose toujours la question, est-ce que ce que je fais est suffisamment bon pour être publié? Est-ce que ça va intéresser des lecteurs? Ou est-ce que j'écris vraiment que pour moi? Et après, quand on voit, surtout sur les blogs, parce que c'est vrai, c'est juste ce que vous dites, les blogs, c'est souvent des lecteurs passionnés et qui lisent énormément. Et quand on a une vingtaine, une trentaine de blogs qui parlent de votre livre avec beaucoup d'enthousiasme, c'est vrai que alors c'est très plaisant, hein, il faut pas se mentir, mais j'étais très étonné, oui, très très étonné.
Et puis avec l'avantage que la plupart de ces blogs sont des blogs francophones, enfin c'est l'avantage
Oui,
ensuite la
oui.
vie d'Internet, quoi.
Oui.
Ce style que tout le monde a remarqué, effectivement, très dense, alors d'abord on a dit Ramu, puis vous dites non, non, mais Ramu, non, mais Steinbeck, enfin tout le monde a cherché des comparaisons, c'est très dense, très sec, ramassé, on a dit âpre, enfin. Comment avez-vous trouvé votre style, votre voix. Est-ce que derrière le premier livre que nous avons pu tenir entre les mains, il y a beaucoup, beaucoup de travail, d'années de recherche de votre voix par écrit, ou pas? Ou est-ce que c'est venu finalement assez facilement?
C'est venu assez facilement, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu une recherche de comment est-ce que je vais écrire. Alors j'écris, c'est vrai, quand on dit j'écris depuis toujours, c'est pas vrai, j'écris pas depuis toujours. Mais depuis l'âge de 20 ans, régulièrement, je faisais des petits poèmes, des choses comme ça. Mais c'était vraiment comme on griffonne quand on est au téléphone, quoi. Hein. Et un jour, c'est vrai que j'étais en train de lire des haïkus, et je me suis dit, je trouvais ça très très beau. Je me suis dit, c'est dingue ce qu'on peut dire avec juste quelques mots. Et c'est là que je me suis dit, ben, je vais essayer. Au début, c'était juste, je vais essayer de raconter une histoire en utilisant le moins de mots possible, le moins de phrases possible, de faire ça extrêmement court. Mais il faut que ce soit percutant. Il faut, c'est pas juste mettre 3 mots sur une page et puis se dire, ah ben, je suis déjà à la page 150, j'ai fini mon livre. C'est vraiment aller à l'essentiel, à l'os, si je peux dire. Et c'est du travail. Ça, oui, à partir du moment où je me suis lancé, c'était un an d'écriture, vraiment.
Pour chacun des livres.
Non, Les Mille Veuves, ça a été peut-être un petit peu plus rapide, mais soit Le Cri du Diable, soit La Lune Assassinée, c'est un an d'écriture, mais assez intensif
Ouais.
quand même.
Mais est-ce que vous écrivez court ou est-ce que vous écrivez, il y a 3 fois plus de pages au début et puis ensuite vous élaguez, élaguez, élaguez?
Alors, ça peut être les deux, ça peut être. Je me promène très souvent en forêt, donc c'est là souvent que je réfléchis à qu'est-ce que je vais écrire. Ça peut être une phrase, et elle ne bougera plus. Mais ça peut être aussi un texte d'une page et demie où il ne restera qu'une phrase. Alors là, après, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Des fois, on se dit, bon, ça, j'enlève pas. Et puis, on se dit, ben, restons logiques dans ce qu'on a voulu faire, même s'il y a deux, trois phrases où on se dit, celles-là, je les aime tellement que je veux les garder. Alors, on les met de côté et puis on pourra peut-être les pousser dans un autre chapitre.
Ouais. Vous êtes venu avec, comme chacun des auteurs, ici même, avec musique et puis un objet. Alors on va écouter la musique parce qu'elle a un lien avec l'écriture et le style. Vous nous direz pour moi pourquoi.
Thank you.
Alors, on a eu 4 minutes pour tenter de trouver ce que c'était. Ça nous, rend, nous change du rock psychédélique d'Alain Bagnou il y a un mois, hein, c'est clair. C'est très beau, merci d'être venu avec cette musique. Qu'est-ce que c'est, Damien Murit, et pourquoi ce choix?
Alors, c'est le concerto pour violoncelle d'Elgar. Je l'ai choisi parce que ça n'a pas forcément directement un lien avec les livres, dans le sens, ça pourrait, imaginons que ce soit un film, ça pourrait très bien être la musique d'un film par rapport à un de ses textes. Mais ce que je trouve intéressant dans ces 4 premières minutes, c'est qu'au départ, on a l'impression qu'il y a quelques notes comme ça qui se cherchent. Elles ne savent pas exactement où elles vont. On sent qu'il y a une mélodie qui doit arriver. Et à un moment donné, les violons presque ils soufflent cette mélodie au violoncelle. Et tout d'un coup, vous avez cet envolé comme ça. Et on trouve la mélodie et tout se débloque. Et moi, c'est un petit peu ma façon d'écrire. C'est qu'au début, j'ai quelques mots comme ça qui se suivent. Je ne sais pas trop dans quel ordre je vais les mettre. Et puis, petit à petit, miracle, on trouve comment on va les utiliser. Ça peut être tout d'un coup un point virgule, ça peut être tout d'un coup un signe de ponctuation comme 2 points, et ça se débloque. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau-là en particulier. Et puis, c'est aussi un petit clin d'œil à ma femme, parce que c'est en écoutant ce morceau-là qu'elle s'est dit « je veux faire du violoncelle ».
Il y a longtemps ou récemment ?
Non, il y a longtemps.
D'accord. Oh, oui. Très beau clin d'œil. Vous avez grandi à Fribourg ?
Pardon ?
Vous avez grandi à Fribourg ?
Alors, je suis né à Châtel-Saint-Denis, ensuite j'ai habité un temps dans un petit village tout près de Romont. Ensuite, je suis venu habiter à Fribourg, oui.
D'accord. Votre père dirigeait une école ? Enfin, était directeur d'école ?
Une école secondaire, oui.
D'accord.
Oui.
Aujourd'hui, vous êtes vous-même enseignant ?
Oui.
Au cycle d'orientation de Jolimont à Fribourg ?
Oui.
Faites-vous travailler avec des adolescents en difficulté ? Donc vous leur enseignez des tas de choses différentes, hein, et pas seulement le français. Finalement, vous, à 15 ans, à 10 ans, à 15 ans, vous vouliez faire quoi de votre vie ? Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose de clair ?
Alors je voulais faire tout sauf prof.
C'est clair que quand on a un papa directeur d'école...
Mon père était prof, après directeur. Ma mère, au départ, était prof. Et ma belle-mère était prof. Donc je me suis dit, moi pas.
Ouais.
Moi pas.
Alors, et alors, comment on se retrouve quand même à être prof ?
Par hasard. Par hasard. C'est que j'ai fait d'abord, je voulais travailler dans l'humanitaire, donc j'ai fait 5 ans d'études à l'Université de Fribourg en travail social. Et puis après, ça ne me plaisait plus du tout. Donc là, j'ai fait beaucoup de petits boulots, livreur de pizza. J'ai travaillé même dans la sécurité à un moment donné, c'était assez rigolo.
Rigolo.
Ouais, parce que je devais surveiller un chantier, puis on passait plus de temps à boire de la bière qu'à surveiller le chantier. Et puis à un moment donné, ben, j'ai rencontré mon épouse, et puis on s'est dit on va aller habiter ensemble, et puis il fallait des sous, quoi. Et j'ai fait des remplacements dans d'autres écoles secondaires, et puis tout d'un coup je me suis dit, ben, tiens, finalement c'est pas mal. Alors j'ai commencé par enseigner dans les classes qui étaient destinées aux longues études. Je m'ennuyais passablement. Et puis par hasard, un jour, une classe, à l'époque ça s'appelait encore classe de développement, maintenant ça s'appelle classe de soutien, s'est libérée. Puis on m'a proposé, est-ce que ça t'intéresse ? Et puis j'ai dit bien sûr, bien sûr. Et puis j'y suis toujours.
Qu'est-ce qui vous plaît ?
Ce qui me plaît particulièrement, c'est que c'est des enfants, enfin c'est pas des enfants, c'est des adolescents, ils ont entre 14 et 16 ans, mais qui sont, comme on dit, brutes de pommes. Ça veut dire qu'ils ont des vies qui sont très difficiles. Ils ont, souvent, ils sont placés en foyer. Ils ont une vie très, très dure. Et malgré tout, ils viennent à l'école, ils font leurs devoirs. Ils en veulent pour leur avenir. Et je reste avec eux pendant 2 ans. Et c'est ce côté-là que je trouve beaucoup plus intéressant que de donner un petit coup de français par là, un petit coup de français par-ci. C'est la fin de l'année, au revoir, merci. Et ça me plaît, ouais.
Vous vous sentez utile dans leur vie en les accompagnant pendant un an, 2 ans ?
J'essaie de me dire que je suis utile.
Ouais. Donc, ben, vous avez ce métier, vous avez une femme, 3 filles entre 8 et 14 ans. Et désormais, ben, vous écrivez aussi. Alors, comment on arrive à guider toutes ces vies dans la même journée ou semaine ? Et qu'est-ce que cette vie d'écrivain, désormais, ajoute aux vies qu'il y avait déjà dans votre emploi du temps et...
Moi, j'y vais d'abord par priorité. Priorité numéro 1, c'est ma famille. Ensuite, c'est le travail. Et quand il me reste du temps, c'est l'écriture. Mais quand j'écris, il ne faut pas m'imaginer non plus 3 heures enfermé dans mon bureau. C'est 5 minutes en voiture à un feu rouge où tout d'un coup je me dis « Ah ouais, ça, c'est quand je vais me promener en forêt ». Mais c'est des petits flashs, c'est des petits bouts de phrases. C'est pour ça que c'est long finalement à écrire, même si c'est très court dans le livre. C'est que c'est des tout petits moments volés à 3 heures du matin en allant boire un verre d'eau où tout d'un coup on se dit « Ah ouais, ça ». Et on le note vite sur un bout de papier et c'est comme ça que le livre se construit. Maintenant, j'aime pas dire le métier d'écrivain, le loisir d'écrivain m'apporte quand même une satisfaction intellectuelle. Ouais, ça me permet un petit peu de... Je parlais de routine tout à l'heure, la routine intellectuelle est peut-être pas si bonne que ça, et ça me permet justement de m'obliger à travailler.
Voilà. Et puis, c'est dans la création. Désormais, vous êtes aussi un créateur. C'était important de pouvoir exprimer cette fibre artistique, littéraire, poétique, très personnelle.
Mais oui et non. C'est-à-dire que moi, jusqu'à 18 ans, j'étais basketteur, j'étais pas du tout dans la littérature. Au contraire, c'était... Je me rappelle qu'au collège, quand on avait le cours de littérature, c'était... voilà, on va y aller, hein.
Donc vous n'aimiez pas du tout lire?
Non, alors vraiment pas. Moi, la lecture, c'était... Bon, on avait...
Vous auriez rêvé d'avoir des livres aussi courts que
oui.
Les vôtres.
Hein, oui. Ah ouais. C'est peut-être pour ça que je fais ça.
J'espère qu'il y a des profs dans la salle. C'est très court.
Non, mais il y avait aussi... Je crois qu'on aime aussi la littérature si quelqu'un, à un moment donné, nous a expliqué comment entrer en littérature. Et malheureusement, au collège où j'étais, j'avais un professeur qui n'était pas un passionné de... Je prends l'exemple de la poésie.
Mais Saint-Michel, vous étiez au collège Saint-Michel.
Oui, qui était chirurgien, qui était un type formidable à côté de ça, mais qui ne m'a pas donné cette envie d'aller plus loin. Et puis après, c'est par hasard que je suis tombé sur un certain nombre de livres, parce que mes parents, eux, lisaient énormément. D'ailleurs, je me demandais pourquoi ils lisaient autant. Je me disais, il y a tellement d'autres choses à faire. Et comme aller jouer au basket, par exemple. Et c'est petit à petit, livre après livre, ça commence tout simple avec des poèmes de Prévert. Et puis après, il y a eu Yann Kefelek avec Les Noces Barbares, où ça a vraiment été le gros coup de poing dans l'estomac, où le livre m'a vraiment plu énormément. Où je me suis dit, voilà, avec les mots, ce qu'on peut faire.
Passer de rien à Yann Kefelek, c'est bien.
Ouais, c'est
la
bien.
Plupart de ceux qui passent de rien à quelque chose commencent par de la littérature beaucoup plus facile d'accès,
non, mais
peut-être beaucoup plus grand public.
Une fois que j'étais dedans, c'était bon. Après, j'ai eu une soif de lecture qui était intarissable.
Et alors aujourd'hui, pour citer 2-3 de vos auteurs de chevet, comme on dit.
Non, je n'ai pas d'auteur de chevet, j'ai des textes de chevet, on va dire. Maintenant, si je dois vraiment citer des auteurs, il y aura Caldwell, il y aura Steinbeck, il y aura Zola, il y aura Camus, il y aura... Camus.
Surtout pas Camus ou
non, c'est pas Camus. Surtout pas, mais c'est... On a souvent voulu m'attacher une étiquette ou un lien avec Camus, et c'est pas... Si on m'avait dit, il y a un petit quelque chose de Steinbeck, j'aurais dit volontiers, oui, je prends. Mais Camus, c'est pas un auteur qui m'a particulièrement marqué. J'ai de la peine à m'identifier et à me dire, voilà, il y a quelque chose de Camus dans ce que j'écris. Si les gens le ressentent, j'en suis désolé.
Ouais. Alors, vous avez un lien avec la nature, alors peut-être que là, il y a... quelque chose de très indirect avec Camus. Vous aimez marcher, vous habitez donc à Montagny-les-Monts, c'est dans la Broye fribourgeoise, donc près de Payerne. Autour de chez vous, il y a de la forêt, une rivière, ruisseau. Vous avez, voilà, parlez-moi de ce lien à la nature. Et puis, vous êtes venu avec un objet qui, du coup, est en lien avec cette même nature. Alors, peut-être, commencez par nous dire avec quoi vous êtes venu en le montrant bien haut, parce que c'est tout petit. Donc c'est un petit, tout petit bocal fermé dans lequel il y a quelque chose. C'est cette chose qui compte. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce bocal, Damien Murith ?
Juste de la terre. C'est de la terre de chez moi. Je suis sorti ce matin, j'ai pris une pelle, toute petite pelle.
Voilà. Alors elle est très noire, on dirait presque du sable.
Non, elle était mouillée. C'est la terre mouillée qui est foncée.
Voilà. Alors pas un seul ver de terre. Hein. Voilà. Alors donc voilà. Vous avez donc un jardin
Oui, alors j'ai la chance d'habiter dans un endroit assez magnifique. C'est une petite ferme perdue au milieu d'une petite forêt. Tout est petit. Un petit ruisseau qui coule, avec un petit chemin aussi. Et on habite là depuis pas mal d'années. Et je suis pas, quand on parle de la nature, je ne suis pas quelqu'un de la nature. Je suis devenu quelqu'un de la nature parce que j'habite dans la nature. Mais je ne suis pas foncièrement, aujourd'hui le mot écologiste est très à la mode. Non, ce n'est pas cet amour de la nature-là, c'est l'amour de tous les jours. C'est l'amour d'ouvrir la fenêtre et entendre les oiseaux chanter, d'entendre le vent dans les feuilles, et c'est ça.
Mais pourquoi avoir choisi de vous installer dans un lieu effectivement très très proche de la nature ?
Mais j'ai eu un début de mes 20 ans assez mouvementé en ville, où je me suis dit, Damien, si tu veux faire quelque chose dans ta vie, il faut partir de là.
Pourquoi ?
Oh, parce que j'avais pris des chemins un peu tortueux, on va dire.
Vous avez l'impression que la ville était le lieu de toutes les tentations, rechutes possibles.
Oui, alors que là où j'étais, je ne pouvais plus rien. Là, c'était... On boit de l'eau, on mange du pain et ça s'arrête là.
Bon, ça fait un peu pénitence, là. Vous vous êtes puni.
Non. Alors, au début, non. La vraie histoire, c'est que ma femme, quand t'es enfant, passait sur le chemin pour aller à l'école. Et tous les jours, elle voyait cette maison et elle se disait, ça, ce sera un jour ma maison. Et un jour, cette maison était à vendre. Et elle m'a emmené dans cette maison et je lui ai dit, jamais de la vie, c'est pas possible. Moi, je vais mourir ici. Je vais me pendre, c'est pas possible. Et puis bon, j'ai tenté le coup. On a commencé d'abord par demander si on pouvait la louer. Heureusement, le propriétaire a dit oui. Et puis, en fait, je m'y suis plus énormément.
Bon, elle a pris des risques sacrément courageuses, votre femme.
Oui, elle a pris des risques. Mais moi, je me suis vraiment plus dans cette maison jusqu'au jour où je lui ai dit, je suis chez moi, c'est bon. Si on a les sous, on l'achète. On avait les sous, on l'a acheté.
Et du coup, ce lien, le fait que vos enfants grandissent là, ce lien à la terre, à la nature, compte désormais plus que tout.
Ah oui. Non, c'est extraordinaire de voir ses enfants courir dehors avec un arc et puis dire je suis Romain des Bois et puis de courir dans les arbres. Et puis moi, ça me plaît de me dire est-ce que mes filles garderont un grand et un bon souvenir de leur enfance ? J'en sais rien. Mais comme père, je me dis j'essaie de leur donner le meilleur et le meilleur, à mon avis, si on peut, si on a cette chance-là, ben, c'est d'avoir comme jouet des arbres, un ruisseau, de la terre, de l'herbe. De voir qu'il y a des saisons, de voir que le lait vient des vaches. C'est important, oui. C'est très important.
Ouais. On va ouvrir la discussion avec le public. Sur des questions, des remarques, enfin, comme d'habitude, tout ce que vous avez envie de savoir d'autre sur Damien Murith ou ses trois livres, vous levez juste la main, comme ça je vous amène le micro, puis on entend, tout le monde peut entendre la question. Qui se lance ? Ah, bah, j'arrive.
Bonjour, merci. Bonjour. Pour tout ce que vous avez déjà partagé. Moi, j'étais intéressée à la manière dont vous écrivez, quand vous avez donné l'exemple du point-virgule qui vient de se lever la nuit à 3 heures. Je me demandais comment, après, vous rassemblez tout ça pour en faire une histoire quand même cohérente. Et est-ce que vous aviez, par exemple, déjà 10 premières pages et puis vous attendez juste qu'est-ce qui vient après, ou bien c'est complètement disparate? Et puis, je pensais à Montrichet, à ces cabanes où des écrivains se donnent d'être pendant 3 mois, 6 mois, puis ils font un tout. Donc, ce n'est pas du tout votre genre. Enfin, vous ne pourriez pas écrire comme ça ?
Non, pas du tout. Alors, le plus dur, c'est la première page. C'est quel est le ton que je vais donner à mon histoire ? Après l'histoire, le fil rouge, je l'ai quand même en tête. Donc, je sais quand même où je vais. Mais je suis très maniaque, ça veut dire que je ne peux pas travailler 2 chapitres en même temps, c'est un chapitre après l'autre. Je ne peux pas me dire je suis au chapitre 1, j'en ai aucune idée pour le deuxième, donc je vais faire le troisième. Tant que je n'ai pas mon chapitre 2, je n'irai pas au chapitre 3. Et les petits bouts de phrases dont je parlais tout à l'heure, elles sont toujours liées à un chapitre. Et tant que ce chapitre-là, je peux rester 1 mois, 2 mois, 3 mois sur un chapitre, tant que ce chapitre-là ne sera pas à mon goût, je n'irai pas plus loin. Je vous en prie.
D'accord, merci beaucoup à tous les deux. Je voulais savoir s'il y avait un rapport entre le sujet de vos livres et votre métier d'enseignant un peu spécial, si on veut.
Ah, si, parce que je suis dans l'enseignement spécialisé, je fais des livres spéciaux. Non, en fait, l'enseignement, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Il n'y a aucun lien entre l'écriture et... et ma vie d'enseignant. D'ailleurs, mes élèves souvent me disent « Ah, vous avez sorti un livre ?» Je dis « Oui. Si... » Et puis ils me disent « On peut aller l'acheter ?» Je dis « Oui, vous pouvez aller l'acheter, mais vous allez perdre 20 francs. Hein. » Et c'est pas pour... Je peux leur lire, je peux leur expliquer, je peux leur parler de mon loisir, mais ça ne va pas forcément les intéresser beaucoup. Hein.
Le font-ils ? Acheter, lire, vous en parler ou pas du tout ? Oui, vous les découragez, ouais, efficacement ?
Non, mais j'ai des élèves qui sont en vraiment grande, grande difficulté scolaire. Ça veut dire qu'à 14 ans, certains arrivent à peine ou difficilement à lire un texte. Et en plus, ils vont parler, enfin, surtout, ils ne comprendront pas. Donc, je ne vais pas partir dans une lecture suivie avec ça. Là, on a fait une lecture suivie d'un livre de Maigret en raccourci, et ça a été long. Ça a été long. Donc non, si je travaillais en dernière année pré-gymnasiale, peut-être bien qu'ils auraient peut-être plus d'intérêt à savoir comment est-ce qu'on écrit un livre, comment on en vient à vouloir raconter une histoire, mais là non. Mais on a d'autres discussions. Hein.
Bonjour. Bonjour, moi j'ai une question, on a des vies extrêmement remplies avec des activités, avec les enfants. Comment est-ce qu'il vous est venu le déclic de commencer à écrire et ensuite de crocher, quoi, de rester accroché à cette idée et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à écrire 3 livres ?
Ben, c'est un jeu, ça devient un jeu à un moment donné. C'est qu'il y a des gens qui vont jouer sur leur tablette. Moi, ça ne me plaît pas tellement, donc je préfère écrire. Et je gagne du temps comme ça, en me disant ça je ne fais pas, ça je ne fais pas, ça je ne fais pas. Mais comme j'expliquais avant, c'est jamais un travail... Je ne vais pas me mettre 2 heures devant une feuille. Ça me prend 5 minutes par jour. Et ensuite, quand les enfants sont au lit et que moi, je suis tranquille, là, je peux reprendre un petit peu mon texte et l'améliorer. Mais si ça se trouve, en rentrant tout à l'heure chez moi, j'aurai tout d'un coup une idée. Et puis, je vais essayer de la garder en tête jusqu'à ce que je sois chez moi en espérant ne pas l'oublier.
C'est le son que font vos idées en arrivant.
Oui, peut-être. Peut-être.
On n'a encore jamais eu ce bruit dans cette salle.
Mais, pour répondre à votre question, ça me prend peu de temps. Si on prend ces petits bouts de temps les uns à côté des autres, il y a beaucoup de petits temps, mais sur l'espace d'une journée, il y aura très peu de temps. Effectivement.
Voilà. Ça vous a été difficile d'être publié ?
Alors j'ai envoyé, quand j'ai terminé le premier, j'ai envoyé, je ne me souviens plus exactement, c'était en 2013, j'ai envoyé 4 manuscrits et je n'ai pas eu de réponse des 2 premiers qui ne m'ont pas répondu et puis ensuite tout de suite l'âge d'homme m'a répondu favorablement. Donc je peux dire quand je vois la galère de certains, non, je n'ai pas eu trop de difficultés. Mais je sais que ça peut être très très compliqué de trouver un éditeur.
Donc il faut être très bon pour en trouver un facilement.
Merci.
Alors, unanimement, vraiment, on a tous été ébloui par le texte de Damien, parce que ça, bah déjà d'une part ça sortait complètement du lot de ce qu'on reçoit habituellement, les mots étaient tellement forts, tellement puissants, enfin vraiment, bah, depuis que j'ai repris, maintenant ça fait quelques années, c'est très rare qu'on soit à ce point-là touché par un texte, et voilà, et on a tout de suite beaucoup beaucoup aimé, ben, évidemment l'histoire, mais tout, la simplicité et en même temps la force du texte, et puis voilà, donc ça a été une évidence vraiment. Ouais.
Merci.
Merci à toi.
Alors, à qui d'autre je peux passer le micro ? Remarque, question ? Ah oui, j'arrive. J'arrive.
Merci, c'est bon. J'ai une remarque qui va peut-être un petit peu vous surprendre. Par obligation, j'écoute les livres plutôt que de les lire. Et c'est une des rares fois où je me suis dit, ce texte va extrêmement bien à être écouté. Est-ce qu'on vous a déjà fait ce genre de remarque? Parfois, quand je lis, quand j'écoute un texte, je me dis, bon, ben, c'est un texte écrit, qu'on a enregistré et qu'on me lit. Là, j'ai eu l'impression que le texte me parlait, dans le vrai sens du terme.
Oui, ça me fait très plaisir ce que vous me dites là, parce qu'effectivement, je mets beaucoup d'importance, je lis mes textes à haute voix, comme si c'était une pièce de théâtre. Et si je sens que ça coince, alors c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et c'est vraiment essentiel de justement avoir... J'ai envie que mes histoires, on puisse les murmurer à l'oreille et qu'on les dise, ouais, on les dise, on les lise.
Du coup, je rebondis sur cette question. Est-ce que vous écoutez de la musique en écrivant ou vous avez besoin de silence?
Non, silence complet. Enfin, ça dépend où je suis. Si je suis dans ma voiture, j'aurai le bruit du moteur. Si je suis en forêt, j'aurai le bruit de la forêt. J'ai pas besoin de m'isoler, mais la musique, non. Parce que la musique, elle va me mettre sur une piste. Par exemple, si on écoute ce que je viens de choisir, elle va automatiquement me mettre sur une piste. Si j'écoute U2, ça va me mettre sur une autre piste et j'aimerais ma piste. Et j'ai essayé à un moment donné de me dire, ben, je vais mettre un peu de musique de fond, histoire de mettre un peu d'ambiance, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce n'est plus mes mots, c'est les mots que me donne la musique.
J'arrive.
Merci. Oui, avant d'écrire votre premier livre, est-ce que vous avez puisé un peu dans la BD, dans la bande dessinée?
Alors, j'ai toujours beaucoup aimé la bande dessinée, mais ça ne m'a pas particulièrement influencé pour écrire, non. Non.
Je parle de la bande dessinée sombre, là.
Non, non. Alors moi, la bande dessinée que j'aime, c'est Boulet Bill, c'est Anki Bilal quand même, c'est Corto Maltese, mais je prends un petit peu ce que je trouve, c'est Lucky Luke aussi.
Merci beaucoup pour ce livre, toutes les émotions que ça suscite. Merci aussi à vous, Isabelle Falconier, parce que vous avez posé, je crois, toutes les questions qu'on se posait. Et puis, peut-être encore une, vous faites dire à Camille deux fois « sale Dieu » et un peu plus tard « pardon ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rapport à la spiritualité, s'il vous plaît?
Vaste sujet, alors. Dieu, c'est un peu mon défouloir.
Bon, vous êtes fribourgeois quand même, ouais, on ouais, a ouais, forcément ouais, un avis. Ouais.
Non, moyen. Non, je c'est une question assez délicate parce que chacun de nous a un chemin de vie qui peut être parfois chaotique et ma façon parfois un peu stupide, hein, c'est justement d'en vouloir à Dieu. Et plutôt que de me remettre moi-même en question, c'est un peu mon défouloir. Mais c'est vrai que la question de ma spiritualité est particulière, est difficile à expliquer.
Bon, dans un moment, il sera assis tout seul à sa table. Il y aura peut-être des choses. On pourra peut-être aller plus loin. À qui d'autre est-ce que je peux passer le micro pour des questions ou remarques? Monsieur, je vous repasse le.
Je trouve que la musique que vous m'avez fait écouter, elle était merveilleuse. Et je dis, si on écouterait vos... non. Si on lirait vos livres ou on les écoutait avec des musiques comme ça, ça nous plonge encore plus dans le livre.
Merci.
Parce que moi, en écoutant votre musique, j'ai écrit un petit texte.
Ben c'est parfait, on est dans l'interaction totale, l'écriture qui suscite l'écriture. Ben voilà, on est arrivé au terme à la fois de cette rencontre et du cycle
des CIR, rencontres consacrées aux éditeurs, aux auteurs, dont le roman faisait partie de la sélection du prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2018. On se retrouve, comme la plupart d'entre vous le savent, mercredi 28 mars à 19h au Théâtre de Vidy. Ça sera dans le pavillon pour la soirée d'annonce et de remise du prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2018. Ça sera une jolie cérémonie. Alors, les auteurs seront tous là au premier rang. Hein, ils ne savent pas qui sera le ou la lauréate, d'ailleurs qui n'a pas encore été déterminé puisque le jury n'a pas encore délibéré. Ça sera une jolie cérémonie parce que chacun des jurés viendra parler d'un des livres, qu'ensuite il y aura des lectures d'extraits de chacun des romans par Anne Richard, elle-même, la présidente du jury de cette année, accompagnée de musique de la violoniste Isabelle Meyer. On est absolument ravis qu'elle participe à cette cérémonie. Vous trouverez des petits flyers avec les informations pour s'inscrire à cette cérémonie du 28 mars sur la table de la libraire juste en sortant de cette pièce. J'en profite pour remercier la librairie Basta et Camélia d'avoir été fidèles au poste pour ces 6 rencontres. C'est très précieux de pouvoir évidemment offrir les livres et puis permettre ensuite une séance de dédicace et donc de dialogue supplémentaire avec les lecteurs, voilà, tel que c'est à laquelle Damien Muride va maintenant se consacrer. Merci au Lausanne Palace. C'était vraiment un bonheur de venir tous ces derniers mois ici pour cet accueil chaleureux, heureux, convivial et gourmand. Et puis merci à vous tous de votre fidélité, de nous avoir suivis, d'avoir écouté avec attention voilà, ces auteurs pour qui évidemment le moment où on peut transmettre ce à quoi on a passé, comme on voit, des mois voire des années, qui parfois est lu très très vite, hein. J'espère que maintenant vous sentez tous coupables d'avoir lu en une demi-heure son dernier livre en sachant qu'il y a passé plus d'une année. Voilà, donc merci à vous. J'espère au mercredi 28 mars, donc 19h au Théâtre de Vidy. Et puis Damien Muride, merci pour cette belle conversation.